Quant à cette inflation, c'est une triste histoire. Il est temps, grand temps, d'arrêter la machine infernale. Combattre l'inflation, c'est sauver la monnaie et le pouvoir d'achat. Voilà pourquoi je lutterai, et le gouvernement avec moi, de toutes nos forces contre ce mal et mobiliserai le pays à cette fin.
40 ans après mai 81, c'est aussi le moment de se souvenir de ce Mitterrand qui déclare la guerre à l'inflation. C'était à la télévision le 23 mars 83, 10% de hausse des prix quand même. Alors désormais, la priorité ce sera de lutter contre la valse des étiquettes. Et voici, Française, Français, le tournant de la rigueur. C'est un chemin qui nous emmène aussi vers la création de la monnaie unique et de la Banque Centrale Européenne. La mission de la BCE, ça n'est ni la croissance ni l'emploi. Sa mission, c'est de stabiliser les prix. Alors objectif atteint, depuis 20 ans, l'inflation est quasiment toujours entre 0 et 2%. Mais depuis quelques jours, les investisseurs et les économistes s'agitent. Le diable serait-il en train de ressortir de sa boîte? Ça se passe d'abord aux États-Unis. Giga relance, afflux de demandes, pénurie de matières premières et de bras, par exemple. McDonald's est obligé de monter les salaires. Quelles conséquences sur le prix du Big Mac? Chez nous, on n'en est pas là, mais on observe aussi des pénuries, l'augmentation de la facture transport. Sur les chantiers, des artisans se plaignent de ne pas trouver d'acier ou de bois. La planète repart et tout le monde en veut. Alors ce matin, pas de panique. En France, l'inflation elle est à 1,2%. Pour la zone euro, la plupart des économistes nous disent qu'ils voient les prix monter dans les prochains mois, puis se calmer. Donc si ça n'est qu'une bosse, on est encore loin de la spirale inflationniste. Tout va bien, dirais-je donc prudemment, jusqu'ici.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Samedi 15 mai, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, J-4 avant la réouverture des terrasses, des commerces. Et ce matin dans le Mag Éco du monde de la culture, deux invités en plateau tout à l'heure avec tous leurs espoirs et tous leurs doutes. Stéphane Braunschweig, le directeur du théâtre de l'Odéon, et Jérôme Tréhorel, le patron des Vieilles Charrues, un des quelques grands festivals de l'été qui a décidé de se maintenir. Du théâtre, de la musique, on ira aussi voir ce qui se passe pour le cinéma, son industrie. En coulisses, ça se bagarre et ça s'inquiète. Des paroles de producteurs, de distributeurs, d'exploitants, vous entendrez tout cela dans le reportage de Marion Ferrer. Et puis bien sûr, rendez-vous avec Ma Vie au Boulot pour répondre à vos questions. Sandrine Foulon est déjà là. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Ouh là, mais un peu loin, n'est-ce pas? Covid oblige. Sandrine, c'est Monique qui vous a écrit.
Oui, oui, et Monique voudrait savoir s'il existe un moyen simple de connaître le futur montant des allocations chômage avec ces règles, ces nouvelles règles, quand même assez compliquées.
Ah ben, vous allez tâcher de nous éclairer parce que c'est pas une mission facile, ça. On se retrouve tout à l'heure, juste avant 10h, ça sera pour le grand final, en fait, avec vous. Mais tout de suite, c'est le lever de rideau avec nos débatteurs. Je suis heureuse d'accueillir ce matin Benjamin Coriade. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 13, membre des économistes atterrés. Et votre dernier livre, La pandémie, l'anthropocène et le bien commun, est paru aux éditions des Liens qui libèrent. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express. Bonjour Béatrice.
Bonjour Alexandra.
L'inflation, les prix qui vont augmenter dans les prochains mois, est-ce que ça vous inquiète vous?
Pas vraiment, parce que il est probable que cette inflation soit transitoire. Et puis, après tout, ben, un petit peu plus d'inflation, c'est pas mal. Si on n'est plus dans ces territoires un peu proches de 0, de 1, ou avec ces tensions un peu déflationnistes, parce que l'inflation, c'est bien, parce que ça érode un petit peu les dettes, et on en a beaucoup.
C'est bien pour ceux qui sont endettés, peut-être que pour certains, c'est moins bien. Benjamin Coriade, vous, ça vous inquiète?
Non, pour à peu près pour les mêmes raisons, ça m'inquiète pas vraiment. Par contre, ce que je trouve plus inquiétant, c'est l'une des causes de l'inflation actuelle, c'est-à-dire ces pénuries qui sont très nombreuses et qui touchent des domaines très variés, y compris la main-d'œuvre dans certains domaines. Alors ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que la reprise vers laquelle on va aller risque d'être un peu chaotique.
Un peu freinée, oui.
Voilà. Et donc, c'est plus cet aspect-là qui m'inquiète que le risque d'inflation. Parce que si on démarre de manière heurtée, etc., ça ne va pas nous aider.
Pour le rebond.
On a besoin d'autre chose.
Alors, avec vous ce matin, le débat, c'est pas sur l'inflation, c'est sur cette question qui ne cesse de revenir et qui pourrait, elle aussi, reprendre de la vigueur. L'héritage, les donations, est-ce qu'il faut en finir avec le tabou des hausses d'impôts?
Faut-il augmenter la fiscalité sur les successions? Eh bien oui, répond l'OCDE, l'organisation des 37 pays les plus riches du monde.
Voilà ce qu'on peut lire dans ce rapport. Du point de vue de l'équité. Un impôt sur les successions peut être un levier important pour lutter contre les inégalités et réduire la concentration des richesses.
Inheritance tax could make a return to the political agenda.
La OCDE recomienda una rebaja del impuesto de sucesiones. Consideran que sería una forma de reducir las desigualdades en el patrimonio de la población.
On parle de modifier la fiscalité de succession, tout dépend de quoi on parle. Donc en effet, on pourrait très bien vouloir taxer toutes les successions au même taux, en quelque chose qui est proportionnel.
Nicolas Frémaux, maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas.
On peut surtout avoir quelque chose qui soit vraiment progressif, c'est-à-dire que l'idée c'est surtout de faire peser l'impôt sur des vraies situations de rentiers, telles qu'on les voyait dans les romans du 19e, où avec les personnes vont recevoir plus en héritage et en donation que toute une vie de travail.
Je pense que globalement c'est plutôt un impôt immoral.
Jean-Philippe Delsol.
Surtout quand, comme en France, la fortune est déjà beaucoup imposée.
Président de l'Institut de recherche économique et fiscale.
Les revenus immobiliers, par exemple, sont taxés en tranche marginale supérieure jusqu'à 66,2%. Donc, en réalité, on taxe encore des biens, une fortune, qui a déjà été beaucoup taxée.
C'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions.
Hippolyte Dalbis.
Regardez comment ça se passe un héritage, ça se passe jamais bien.
Professeur à l'école d'économie de Paris.
Taxer l'héritage, ça veut dire mettre un héritier de plus, finalement. Maintenant, il faut bien voir que ça ne correspond qu'une petite partie de la population. Je veux dire, l'immense majorité des gens ne transmettent très peu, d'accord, et ne payent pas de droit de succession. Donc là, vous parlez de gens qui non seulement ont un patrimoine immobilier, mais aussi ont un patrimoine financier et qui sont capables de transmettre.
Je rappelle qu'en 1820, quand on a commencé à faire des statistiques sur les successions, les héritiers avaient 25 ans.
Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe.
Maintenant, les héritiers ont en moyenne entre 55 et 60 ans. Et donc, on héritait au 19e siècle au moment où on allait commencer à être productif, on hérite maintenant au moment où on commence à être à la retraite. Je pense que c'est complètement ça qu'il faut corriger. Je pense qu'il faut augmenter les droits de succession, mais qu'il faut supprimer toutes les autres taxations sur le capital.
On connaît Jean-Marc Daniel. Béatrice Mathieu, pourquoi cette question de la fiscalité des héritages et des donations revient dans l'actualité?
Elle revient dans l'actualité pour deux raisons. D'une part, parce que les États aujourd'hui, on voit bien, sont à la manœuvre. Il y a eu une socialisation des pertes, un quoi qu'il en coûte qui a fonctionné, même si on peut dire on aurait pu en faire plus différemment, etc. Mais bon, ça a fonctionné. Et donc, des déficits et un endettement qui a fortement progressé. Parallèlement, on a eu une crise qui a accru d'une certaine façon sont les inégalités, notamment les inégalités de patrimoine, et on reviendra là-dessus. Donc, quand on met ces deux raisons en face, on se dit que les États, de toute façon, doivent trouver des recettes supplémentaires, qu'il faudra bien sortir de ce quoi qu'il en coûte, rétablir malgré tout un petit peu les comptes, et donc rétablir aussi la question, en tout cas adresser la question des inégalités. Voilà pourquoi c'est sur la table.
Et Benjamin Coriat, là, on est en train de toucher un tabou planétaire, hein, auquel Joe Biden s'attaque un peu.
Oui, il s'attaque même pas mal, hein, parce que enfin, si on le prend sous l'angle des inégalités et sous l'angle de la fiscalité, on était dans une course vers le bas, hein, en termes de fiscalité, avec une concurrence vers le bas. En Europe, on était vraiment champion, hein, parce qu'en plus avec notre règle d'unanimité pour toucher la fiscalité, on a touché à rien et ça a été la concurrence vers le bas.
Mais là, même sur les héritages, hein, Biden.
Alors voilà, même sur les héritages. Donc effectivement, je crois que l'heure est venue, hein, d'une discussion un peu sérieuse sur ce tabou, et il faut se féliciter que l'OCDE l'ait relancé.
Le rapport de l'OCDE qui est sorti cette semaine, il dit quoi ce rapport, Benjamin Coriat?
Alors, ce rapport, il dit pour l'essentiel que la contribution de l'imposition sur les transmissions, donc sur les héritages, par rapport au revenu global de la fiscalité, est encore très faible. Et que donc il y a une marge de progression de ce côté. Ensuite, il dit qu'il y a une grande inégalité de situation à travers le monde, mais que dans l'ensemble, en tout cas, le message essentiel, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est presque moins un souci d'égalité, parce que c'est pas ce qui caractérise l'OCDE, qu'un souci de rationaliser l'imposition et faire en sorte que certaines niches sous-imposées rendent davantage, surtout dans une période de surendettement à la fois des ménages et des États.
On appelle ça un gisement fiscal.
Oui, on appelle ça un gisement fiscal. Oui.
Béatrice Mathieu, dans ce rapport, il y a une comparaison internationale. Est-ce que la France fait partie des pays qui imposent quand même le plus
Oui, il y a une sorte, presque une exception française. S'il faut quand même reprendre les chiffres de l'OCDE, donc 10% les plus riches possèdent aujourd'hui la moitié du patrimoine total. Les 1% les plus riches, c'est 18%. Dans le cas français, c'est grosso modo les mêmes chiffres. En revanche, quand on regarde le poids de la taxation des successions dans le poids des recettes totales, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, on est aux environs de 0,5%. Donc c'est très faible, hein. En France, on est à un peu plus de 1%. Ça reste, c'est le double de la moyenne de l'OCDE, ça reste quand même très faible. Donc on voit qu'il y a un potentiel de recettes.
C'est une société un peu balzacienne quand même, hein, qu'on est en train de vivre, on l'entendait dans le ZAB, Benjamin Coriat.
Ah oui, incontestablement, c'est-à-dire que quand on se réfère à la longue période, c'est ça qui est important, hein, on s'aperçoit que donc le 19e, donc la société balzacienne était très fortement marquée par ces inégalités de patrimoine. Il y a eu un petit mieux pendant les Trente Glorieuses, et même un grand mieux, d'une certaine manière. Et puis, depuis les années 70, on est reparti vers des inégalités de patrimoine qui sont devenues abyssales. Donc, oui, on est revenu à la société balzacienne.
Alors, pas complètement quand même, pas complètement à la situation fin 19e. Hein. Quand on regarde ce qu'on appelle le flux successoral, en fait, donc c'est la masse un peu des successions rapportées au PIB, ce qui permet de relativiser, on a quasiment doublé depuis 90, on est passé de grosso modo de 8 à 16% du PIB. Il faut voir qu'à la fin du 19e, on était à 24-25% du PIB, donc
exact,
on n'est pas quand même revenu à ces niveaux-là. Malgré tout, effectivement, il y a une progression très importante. Et quand on regarde juste en France, hein, entre 1995 et 2019, on a le patrimoine par habitant qui a été multiplié par 3.
Alors, j'ai l'impression que tous les deux, à ce stade-là, vous êtes d'accord. En fait, vous dites, en effet, il y a quand même un gisement fiscal. On pourrait faire plus. Les Français ont déjà l'impression d'être bien assez imposés sur leurs héritages et leurs successions, Benjamin Coriat.
Ben écoutez, il y a un vrai problème d'information des Français là-dessus, hein, et je pense que casser le tabou, c'est apporter de l'information supplémentaire. Le point important, c'est que pour les hauts et très hauts revenus, en particulier en particulier l'assurance vie n'est pas taxée, à travers la fiscalité, la modification de l'impôt sur le revenu, de l'ISF, la taxation sur les actions, donc sur les actifs financiers, a considérablement diminué. Donc, il y a vraiment un problème d'éducation, si je peux dire, sur le fait que il y a une inégalité de traitement extrêmement forte suivant que on transmet des hauts revenus ou un haut patrimoine plus exactement, ou que on transmet le gain d'une vie, si je peux dire. Le grand problème, c'est que ce qu'on transmet dans les grandes fortunes, c'est pas le gain d'une vie, c'est le gain de plusieurs générations qui se transmettent de génération en génération, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle encore des 100 familles.
Béatrice Mathieu, est-ce qu'on peut juste faire une photo du gain d'une vie, comme dit Benjamin Coriat? C'est imposé comment aujourd'hui? J'ai entendu que les trois quarts des successions, en fait, échappaient à l'impôt. Oui, c'est vrai ou faux? Benjamin,
c'est vrai.
Il y a un problème d'information là-dessus.
Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, que les Français sont spoliés au moment des gains. C'est complètement faux. Je veux dire, on a aujourd'hui des baisses taxables qui sont totalement mitées, trouées de partout, avec des abattements dans tous les sens. Quand on regarde la part des successions qui sont taxables, on était grosso modo à 30% en 2007, on est tombé sous les 15% sous Nicolas Sarkozy, on est remonté à 20-25%, ça veut dire que les trois quarts aujourd'hui des successions ne sont pas taxées parce qu'il y a énormément d'abattements, notamment envers les enfants.
En tout cas, c'est ça le point, en tout cas quand c'est vers ses enfants, parce que Benjamin, c'est un problème ça quand même dans le système actuel.
Il y a un gros problème qui est que l'armature, si je peux dire, de la taxation, elle est faite pour protéger la transmission directe, si je peux dire, à l'enfant. Avec une exception qui est que maintenant la possibilité de transmettre aux petits-enfants à travers des donations est fortement incitée grâce à des mesures fiscales. Mais ça correspond plus, même enfants, petits-enfants, ne correspond plus à la réalité de la société française, dans laquelle on a de très nombreuses familles recomposées, etc. Et donc, on a une situation qui est non seulement inégale, mais en plus pas rationnelle, ne correspondant pas à ce qu'est la société française. En plus, on hérite maintenant extrêmement tard. On hérite à la retraite. Ça a été dit tout à l'heure dans votre best-of, hein, si je peux
dans
dire.
Zapping, oui.
Oui, et comment dire, c'est contraire à la rationalité économique, c'est-à-dire que des gens qui auraient besoin d'argent pour investir, pour se loger, etc., ne reçoivent pas cet argent parce qu'ils le reçoivent trop tard.
Donc, Béatrice Mathieu, maintenant qu'on a quand même fait ce point, tout à l'heure, Benjamin disait, il faut s'attaquer finalement à la fiscalité des héritages des ultra-riches. Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer, puisque vous êtes aussi dans l'avis qu'il faut changer les choses?
Oui, je pense qu'il faut lutter contre les rentes. Et la première rente d'entre elles, c'est l'héritage. Alors, on a un système qui, sur le papier, est progressif. Mais, encore une fois, qui est totalement des assiettes qui sont mitées par des abattements. Juste un chiffre qui est très intéressant. Hein. Le taux moyen, c'est un peu comme sur le taux d'imposition des sociétés. Vous avez la différence entre le taux qui est affiché facial et puis le taux effectif. Sur les successions, c'est un petit peu pareil. Parce que vous avez normalement une progressivité des taux d'imposition qui sont importants, puisque quasiment au-delà de 1,8 million d'euros de succession, vous avez un taux qui est à 45%. En réalité, le taux moyen effectif, alors on était avant la crise, mais ça ne doit pas avoir beaucoup bougé, on était à 5%, ce qui est très 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 faible. Donc il faut,
c'est-à-dire
non seulement...
que 45%, non mais c'est quand même très très fort ce que vous dites. Vous dites que le au-dessus de 1,8 million,
c'est 45%.
C'est 45% facialement, mais en réalité
le taux moyen effectif est de 5% et même plus bas quand on est en ligne directe. Le taux moyen effectif en ligne directe, donc parents à enfants, est de 3%. Donc on voit bien qu'il y a un souci. Donc il faut à la fois remettre de la progressivité, mais aussi à la fois revoir la question des abattements et à la fois sur les actifs financiers. Mais à mon avis, il y a un gros sujet et ça fait polémique, évidemment. Et il y en a beaucoup de nos auditeurs qui risquent de s'étrangler.
Alors, allez-y,
voilà. Et je pense qu'il faut revoir la fiscalité des plus-values immobilières. Parce que là, c'est la plus grande...
Ça, c'est-à-dire quand on achète un bien et qu'on le revend plus cher.
Voilà. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui, dans le système fiscal français, nous sommes exonérés de taxation sur les plus-values immobilières quand c'est votre résidence principale. Imaginez, donc vous êtes parent, vous avez un bel appartement à Paris, Lyon, Marseille, Lille. Vous le vendez pour acheter un petit peu plus petit. C'était votre résidence principale. Vous n'êtes pas taxé sur la plus-value immobilière, alors même que les prix avaient beaucoup progressé, et vous pouvez donner 100 000 euros par enfant, ou si vous êtes un couple, 200 000 euros par enfant, sans être taxé.
Ok. Benjamin Coriat, ça vous intéresse comme piste?
Mais bien sûr que ça m'intéresse.
Je pense que les auditeurs sont en train de s'étrangler. Hein.
Oui,
mais du coup, que leur dire?
Non, mais les auditeurs sont en train de s'étrangler, je comprends bien.
C'est le travail de toute une vie, c'est toujours cet argument qu'on entend.
Non, parce que transmettre le travail d'une vie, ou en tout cas une partie du travail d'une vie, je pense que la question n'est pas vraiment là. La question est que ce qu'on transmet, c'est ce qu'on a reçu, et qui correspond pas au travail d'une vie et qui correspond à de la valorisation
à l'évolution du marché.
Bien sûr, à l'évolution des marchés.
Je veux
citer personne, mais prenez les grandes fortunes aujourd'hui en France. Outre le fait que ça correspond absolument pas au travail d'une vie, bien entendu, ça correspond au fait qu'il y a eu une hausse folle des actions qui sont elles-mêmes extrêmement peu taxées. Bon, et que donc, il est absolument anormal qu'une telle masse d'argent soit accumulée en si peu de mains, alors qu'on pourrait en faire un usage économique, rationnel, pour reconstruire la France et réduire les inégalités, qui aurait un effet économique autrement important.
Donc j'entends ce matin baisser tout ce qui est succession dans les familles recomposées, par exemple. En revanche, augmenter, c'est votre piste.
là, il n'y a pas débat.
Oui.
Les impôts sur les plus-values
immobilières. Je pense que la question immobilière est plus importante que la question des actifs financiers.
Eh ben, écoutez, oui, on va voir comment...
Elles ont chacune leur importance.
On va avoir du courrier. Béatrice Mathieu et Benjamin Coriat, les débatteurs de ce samedi 15 mai, merci à vous. Il est 9h32 sur France Inter et maintenant c'est le monde de la culture qui nous attend, ou plutôt qui attend le déconfinement. Dans 10 minutes, nous en parlerons avec le directeur du festival Les Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, et avec le metteur en scène Stéphane Brunschweig, qui est aux commandes du théâtre de l'Odéon. Mais d'abord, venez, ce matin on vous fait entrer dans un cinéma, c'est une avant-première, et dans un multiplex tout neuf, s'il vous plaît. Aucun spectateur n'a encore pénétré ce hall.
Merci beaucoup de m'accueillir. C'est tout beau.
C'est... voilà.
Et là, du coup, c'est quand même assez grand, enfin, en termes de croisement de population.
Alors, ça... logiquement, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de croisement. Les gens vont rentrer dans les salles, alors soit à droite, soit à gauche, en fonction des salles, et ils ressortiront par les sorties latérales de chaque côté.
Donc ils ne repasseront pas...
Ils ne repassent pas par là. Donc le but du jeu, c'est qu'on voit là, il n'y a aucun croisement de spectateurs dans l'enceinte du cinéma.
Et les 9 salles sont de la même superficie.
On va faire la plus petite et la plus grande.
Ouais. C'est la première fois que je remets les pieds dans une salle de cinéma.
Voilà, ça c'est la plus petite salle, 80 places, avec une grande affiche de la lavande. Ouais. Et là, on va aller voir le coup là plus loin.
C'est pas mal.
Elle est magnifique.
Donc là, c'est la plus grande salle.
C'est la plus grande salle. Là, on est à 375 places, 380 places.
Cette salle-là, vous l'avez terminée quand ?
Alors, tout le cinéma a été terminé. On a passé la commission de sécurité le 20 avril dernier.
Donc c'est 9 salles ?
9 salles, 1297 fauteuils. Ben, prêt pour le 19 mai prochain.
Et alors le 19 mai, justement, qu'est-ce qu'on trouvera à l'affiche ?
Alors on trouvera naturellement des reprises et des nouveautés. Les reprises, on entend tous parler de Adieu les cons, qu'on reprendra très naturellement. ADN aussi, le dernier film de May Whalen. Et puis on va prendre des nouveautés pour les enfants Tom et Jerry.
Ça rouvre au mois de mai, il va faire beau, les terrasses vont rouvrir aussi. Vous avez une sacrée concurrence, même si le français est attaché au cinéma. Est-ce que c'est un défi aussi ?
Alors c'est un défi parce que ça fait quand même 7 mois qu'on est fermé. Naturellement que 35% de jauge, on va pas dire que c'est rentable. Mais entre 7 mois de fermeture et la reprise, très naturellement qu'on a envie de renouer avec nos spectateurs.
Et vous, est-ce que vous allez vous glisser dans la salle pendant la première projection ?
Alors, je vais me glisser dans toutes les salles.
Ça ne s'invente pas, nous sommes à Plaisir ce matin, à 40 km de Paris, et Marc-Alban Gravez, le directeur de cette UGC, est impatient. Même si, comme tout le monde le sait, ça ne sera pas simple. Hein. Premier défi, les jauges. Ensuite, il va falloir faire revenir les Français dans l'obscurité des salles. Et oui, dehors, il y a le printemps, la liberté de se déplacer. À la maison, il y a la VOD. Et puis enfin, là, tout de suite, il y a le troisième souci. 400 films attendent leur sortie. C'est l'embouteillage et donc la bataille. On continue de suivre notre reporter Marion Ferrer. Elle est revenue dans la capitale pour rencontrer un des producteurs importants du cinéma français. Le dernier film qu'il a financé sera à l'affiche dès mercredi prochain.
Bonjour, je suis Dimitri Rassam, producteur chez Chapter 2 et je sors le film Envole-moi. On n'a pas cherché à jouer des bras vis-à-vis des uns vis-à-vis des autres. On ne considère pas être un blockbuster, on a l'impression que c'est un film populaire qui... peut vraiment rencontrer le public, mais j'ai pas la moindre idée du nombre d'entrées qu'on va faire. J'espère suffisamment, en tout cas pour qu'on ait le sourire et qu'on soit heureux. On a fait ce film pour le partager, c'était le destin naturel que d'être en salle.
Vous avez dit, on ne sait pas combien d'entrées on va faire, et du coup, aucune idée de savoir si ce film, vous allez en fin de compte pouvoir le rentabiliser après tant d'attentes aussi.
Alors c'est un film qu'on a très bien vendu à l'international. Ceci étant dit, non, je sais pas si on va le rentabiliser, et pour moi, la pire sanction au-delà d'économique, c'est l'indifférence. On va voir. Ça me manquait un peu les papillons dans le ventre de on espère que, on se raconte des choses, on se dit et là, est-ce que ça fonctionne ? Bon. Mais on a demandé à ce que les salles réouvrent. Il faut le faire de façon responsable. Donc on n'est pas en train de lutter contre la jauge. Je veux dire, j'aurais adoré sortir avec la jauge à 50 plutôt qu'à 35. Tout comme un restaurateur adorerait avoir, etc., etc. Mais enfin bon, aujourd'hui, l'important pour le secteur, au-delà de mon film et ma personne, c'est qu'on réouvre. Après, un petit mot peut-être sur ce mot d'embouteillage. Depuis, avant même le Covid, il y avait déjà les embouteillages. On a tous fantasmé en tant que producteur ou distributeur d'avoir un mercredi rien qu'à soi. Ça n'existe pas. En revanche, il y a un vrai embouteillage, et c'est là où l'embouteillage des sorties devenait problématique pour l'ensemble de la filière, c'est qu'il y a un embouteillage des financements. C'est-à-dire qu'un distributeur qui n'a pas sorti un film, c'est compliqué pour lui de se dire « je vais m'engager sur un autre film ». Donc sur l'ensemble de la filière, ça commençait vraiment à devenir problématique. On est tous dans cette nasse. Je veux croire à une intelligence collective sur le fait de trouver une bonne programmation globale. Ça serait une erreur, par exemple, de redémarrer avec que des continuations. On sait très bien qu'il faut des films, entre guillemets, frais, pour aussi avoir la fréquentation que les salles ont besoin d'avoir pour justifier leur réouverture.
Face à ce stock, l'autorité de la concurrence a ouvert la porte aux négociations. Pour la première fois, une entente a été autorisée entre les distributeurs. Le but pour Isabelle De Silva, sa présidente, assurer à la fois une programmation variée pour les spectateurs, mais aussi protéger les petits acteurs du secteur.
Souvent, les plus petits films ou les films indépendants ont du mal à garder l'accès aux spectateurs quand il y a des grosses sorties. Certains peuvent jouer aussi la contre-programmation. C'est vrai que bon, si on est un film indépendant, on n'est pas forcément en concurrence directe avec la grande production américaine qui appartient tout à fait à une autre catégorie. Donc voilà, je pense que les acteurs vont trouver des façons de s'adapter, mais ça sera un choix difficile aussi pour les exploitants de salles qui sont en bout de chaîne et doivent essayer d'offrir une programmation qui ait du sens pour leur public. Alors, ce qui est sûr, c'est que plus cet accord sera ciblé sur un petit nombre de sujets et plus il sera court, plus il aura de chances d'être compatible avec le droit de la concurrence. Donc, par exemple, on aurait pu imaginer un accord prévoyant les sorties des différents films sur quelques semaines jusqu'à l'été. Il ne faut pas aller trop loin, bien sûr, pour discuter des tarifs, des nombres de copies par salle, etc. Donc voilà, cet accord doit rester assez général. Mais s'il doit être efficace, évidemment, il doit se conclure rapidement dans les tout prochains jours.
Des discussions compliquées, ça se voit autour de la table. Les poids lourds comme Gaumont ou Pathé ont laissé, pour le moment, leurs chaises vides. Restent les syndicats des indépendants, dont Étienne Ollagnier, coprésident du SDI et dirigeant de la maison de production Jour de Fête.
Bonjour.
Enchanté. Merci beaucoup de me recevoir.
Ben, je vous en prie.
On avait peut-être la naïveté de penser que cette concertation, j'ai intelligente, un peu raisonnable, pourrait avoir lieu tous ensemble. Bon. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'on est en fait la recherche et développement du secteur. C'est-à-dire que dans n'importe quelle industrie, il y a une recherche et développement qu'on dénigre pas du tout et dans laquelle on investit. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, des distributeurs comme nous, on sort majoritairement des premiers et des deuxièmes films, de gens qui sont sur le papier inconnus, qui parfois ont du mal à financer leurs films. Mais parmi ces films-là, il y a les pépites de l'année. Donc, pour ma part, par exemple, un film comme Papicha, il venait vraiment de nulle part, et puis ça a été un des films de l'année dernière. Si on parle d'un confrère dans un plus gros syndicat, Les Misérables, c'est pareil, c'est un premier film. Donc, tous ces films-là, dont au début personne ne veut, deviennent les films importants qui permettent à ces auteurs et à certains producteurs et à des distributeurs plus gros de faire les films d'après qui deviennent vraiment des gros cartons français ou internationaux.
Il n'y a que la salle qui peut le révéler, c'est la magie.
Il n'y a que la salle qui permet ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ces films-là passaient directement sur une plateforme sans qu'il y ait eu, par exemple, un festival de Cannes pour les lancer, un bouche-à-oreille au cinéma, des débats, parce qu'on organise des centaines de débats sur les films dans les salles, etc. Ces films ne sont rien sans tout ça.
Le dernier défi reste finalement le plus important. Les spectateurs vont-ils revenir ? Avec la fermeture des cinémas, les plateformes de vidéo à la demande se sont imposées ces derniers mois. Netflix, Amazon Prime, Salto, Disney+. Depuis mars 2020, leur nombre d'abonnés a doublé en France. C'est un Français sur trois qui a souscrit au moins un abonnement. Olivier Thuyas enseigne les sciences de l'information à Paris-Nanterre. Il reste optimiste, cinéma et plateforme vont devoir travailler ensemble.
On a cru, quand Netflix notamment est arrivé, qu'on allait différencier, qu'on allait se dire, bon, au fond, sur Netflix, on va regarder des séries, et puis pour les films, on ira essentiellement au cinéma. On voit que c'est pas complètement ce qui se passe, et c'est vrai que la tendance avec la crise sanitaire, ça a été, quelque part, de se passer des cinémas. Et Netflix, notamment, et Amazon Prime ont tendance à se passer de plus en plus des cinémas. Je suis pas sûr que ça va continuer de manière aussi drastique, d'abord parce que le peu de temps où on passe quand même dans les salles de cinéma, pour des blockbusters notamment américains, c'est un chiffre d'affaires qui est énorme, qui est sans commune mesure avec le chiffre d'affaires que vous pouvez avoir sur une plateforme de SVOD. Les salles de cinéma, c'est un vrai intérêt pour un certain nombre de plateformes aussi. Et je pense que pour Netflix comme pour Amazon Prime, comme ils vont être dans l'obligation avec la transposition de la directive SMA, de financer beaucoup plus l'audiovisuel français et en particulier le cinéma français, ils vont se retrouver à devoir préfinancer des films qui vont d'abord sortir en salle et puis qui vont ensuite pouvoir avoir plus rapidement sur leur plateforme.
Le cinéma industriel tel qu'on le connaît et les plateformes ont compris qu'elles étaient obligées de coexister.
Je pense qu'elles sont obligées de coexister et ça amène de l'argent frais quelque part dans l'audiovisuel. On a un financement du cinéma français qui était bien huilé, qui fonctionne bien. On a eu très peur de l'arrivée de ces plateformes et des modifications que ça pouvait faire, et notamment de la faiblesse que ça pouvait causer, notamment à un acteur historique comme Canal+. Donc je pense que les choses vont se reposer doucement après les périodes de tension qu'on a connues ces premiers mois de 2021, et chacun va trouver sa place avec, je l'espère, plus d'argent pour le cinéma français, avec un acteur comme Netflix qui, à la différence d'Amazon, qui est un acteur qui se rapproche plus d'un prédateur à mon sens, Netflix est plutôt un acteur qui va être attentif à des productions plus difficiles, plus compliquées, plus risquées, il va faire plus confiance à des scénarios un peu plus osés. Donc là-dessus, moi je trouve qu'on est vraiment dans la continuité de ce qu'on peut attendre d'un cinéma français de qualité.
Pour le cinéma, les trois défis du retour à la vie, c'était le reportage de Marion Ferrer.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et ce samedi, deux personnalités du monde de la culture sont les invités d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour Jérôme Tréhorel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du festival des Vieilles Charrues, qui se déroule évidemment en Bretagne, en juillet. Et en Bretagne, vous y êtes ce matin. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci également à vous, Stéphane Brunschweig.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du théâtre de l'Odéon à Paris. Stéphane Brunschweig, dans 4 jours, la réouverture est possible. On vient d'entendre le reportage. Est-ce que vous avez peur que les spectateurs ne retrouvent pas le chemin des théâtres ?
Alors vraiment pas. On a donc programmé la reprise de la Ménagerie de verre de Ivo Van Hove avec Isabelle Huppert et on a mis en vente les places qu'on avait disponibles et 2300 places sont parties en 2 heures. C'est-à-dire qu'on sent une avidité de théâtre, une avidité de retourner dans les salles de spectacle qui est énorme.
Vous allez donc réouvrir dès mercredi prochain avec une jauge de 35%. Ça doit vous permettre d'accueillir 290 personnes sur 840. Évidemment, pour un théâtre public subventionné, c'est pas du tout la même équation que pour un théâtre privé.
Il est clair que les théâtres publics sont privilégiés par rapport aux théâtres privés, parce que les théâtres privés, ils ont besoin de toute leur jauge pour amortir les coûts des spectacles, alors que nous avons des subventions qui sont faites pour ça. Donc effectivement, c'est un petit peu moins de 290, parce qu'on a des protocoles sanitaires qui veulent être le plus irréprochable possible. Mais en tout cas, ça vaut la peine pour nous de rouvrir entre 250 et 300 places. Et effectivement, bien sûr, on va avoir un gros déficit, mais ce qui est important, fondamental pour nous, c'est de jouer. Notre responsabilité d'établissement public, de théâtre public, c'est que les théâtres puissent rouvrir après 8 mois de fermeture, sans compter le premier confinement. On a compté que ça faisait à peu près 350 représentations annulées.
Et des embouteillages de pièces, là on parlait des embouteillages de films. Vous aussi, vous connaissez le phénomène au théâtre?
Oui, alors c'est un phénomène un tout petit peu différent, mais c'est vrai que toute l'année, on a continué notre activité, on a répété des spectacles. On a fait 5 créations de spectacles sans public. Et donc, il va falloir les jouer l'année prochaine. Donc, tout l'enjeu pour nous, pour préparer la saison prochaine, c'est d'équilibrer entre les reports et quand même de maintenir au maximum les nouveaux spectacles. Parce que vous voyez bien que nous on est un gros employeur d'intermittents, intermittents artistiques, intermittents techniques. On a en moyenne 550 intermittents qui viennent travailler dans une saison. Donc on est moteur dans l'activité. On est aussi coproducteur de beaucoup de spectacles. Un théâtre comme le nôtre, c'est un théâtre qui coproduit une dizaine de spectacles par an.
On voit le poids, oui.
Donc on redistribue cet argent public. Et donc il faut qu'on puisse être partie prenante dans la reprise de l'activité. Et même si la reprise est aujourd'hui partielle, progressive, il va falloir qu'on soit à fond dedans.
Enclencher la machine. Vous, Jérôme Tréhorel, vous avez programmé les Vieilles Charrues du 8 au 10 18 juillet. Alors vous, l'équation est différente puisque vous êtes un festival non subventionné. Certains comme les Eurokéennes, le Hellfest, Solidays ont renoncé. Pourquoi vous, Jérôme Tréorel, vous avez maintenu les vieilles charrues? Est-ce que c'était vital d'exister en 2021, de ne pas refaire une année blanche?
C'était oui, surtout ne pas revivre un été silencieux comme l'an passé, même si la dernière ça a été brutal et qu'il avait fallu tout de suite faire prendre conscience justement au gouvernement que les festivals sont un vrai phénomène de société depuis quelques années. Et puis ça a un impact colossal sur le territoire, tant au niveau culturel mais aussi économique et social. Les Vieilles Charrues, hein, c'est un festival 100% associatif, comme vous l'avez dit, qu'à zéro subvention, donc on vit grâce au public et aux partenaires. C'est 17 millions d'euros de budget, 18 millions d'impact économique sur le territoire. Et à la rentrée, avec l'équipe, voyant la deuxième vague arriver, on s'est dit, c'est pas possible, ça va recommencer. Donc on en avait envie, besoin et surtout peut-être même le devoir avec toute l'équipe de trouver des solutions, de s'adapter pour justement, peut-être avec des proportions différentes, c'est sûr, mais au moins pas revivre un été silencieux et célébrer les retrouvailles entre le public, les artistes et les bénévoles.
Vous l'avez rétréci, hein, vous allez programmer 10 soirées au lieu de 4 journées. Alors, on a eu des précisions ces derniers jours sur le protocole sanitaire. Pas de jauge, mais un espace de 4 mètres carrés par festivalier. Il y a le pass sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, pendant plusieurs mois, on n'avait pas de cadre. En février dernier, on a eu un cadre, un premier cadre qui était un point de départ. L'annonce était 5000 personnes distanciées en assis. Le cadre, ces dernières semaines, a beaucoup évolué. Il faut savoir, pour organiser un festival, habituellement, c'est une année de travail. Là, en quelques semaines, on a non pas adapté les Vieilles Charrues, mais on a véritablement créé un nouveau festival de 4 jours de concert à 70 000 personnes. On passe à 10 soirées, 5 000 assis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire. Donc depuis la fin de l'année dernière, avec l'équipe, on a travaillé tout ça, on a chiffré. Mmh. Et lors des dernières annonces, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre en risque et fragiliser notre organisation, parce que c'est quand même quelque chose d'important à organiser, d'accueillir du public, on a des responsabilités engagées. Donc nous, on va rester sur cette notion de 5000 assis, non distanciés, parce que c'est la règle à partir du 30 juin. Et c'est quelque chose qu'on a créé, on a complètement transformé le festival, on a créé un cocon, donc on va rester sur...
Donc ça fait 50 000 spectateurs au lieu de, sur 10 jours, au lieu de 270 000 en 4 jours, c'est ça?
C'est ça, mais c'est mieux que rien.
Ça fait une sacrée baisse de chiffre d'affaires, j'imagine.
Alors, c'est pas du tout le même modèle économique. En effet, pour pouvoir s'adapter, on est parti des recettes potentielles. On s'est dit 5000 personnes sur 10 jours, combien ça va nous rapporter en recettes, en espérant bien évidemment que ce soit complet. On sait qu'on aura le soutien de partenaires et mécènes qui est très important aux Vieilles Charrues. Hein, c'est 250 entreprises qui habituellement nous soutiennent. Après, on a un caillou dans la chaussure, mais qui est un joli caillou. C'est notre équipe salariée, c'est 14 permanents. Forcément, c'est surdimensionné pour organiser un concert de 5000 personnes, mais nécessaire pour organiser une grande manifestation, et on voulait maintenir les emplois. Donc on sait que sur ce budget-là, cette année, on sera autour de 2,5 millions, 3 millions d'euros. Mmh. On sera déficitaire, mais il y a eu l'engagement notamment de l'État de nous accompagner. Des partenaires mécènes vont aussi nous soutenir. Et puis il y a eu beaucoup d'efforts, et ça, il faut remercier tous les prestataires, les artistes, les fournisseurs, qui nous permettent aussi d'atténuer les risques et nous permettent d'embaucher.
Il y a des efforts sur les cachets. Stéphane Brunschweig, vous le directeur du théâtre de l'Odéon, aux Vieilles Charrues, je crois qu'il y a 700 intermittents en permanence, enfin, qui travaillent pour le festival. Vous parliez de 550 intermittents. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de théâtres qui sont occupés. L'Odéon, c'est en quelque sorte le navire amiral. Cette semaine, le gouvernement a prolongé les aides en direction des intermittents. Vous les avez appelés à lever le mouvement. Pour le moment, ça semble bloqué. Est-ce que mercredi prochain, vous êtes certain de pouvoir donner la représentation d'Iphigénie, de la Maison de Verre?
De la ménagerie de
Verre. De la ménagerie de Verre, j'y arriverai, pardon.
Certains, non, mais c'est vrai que... j'ai appelé à la levée des occupations, parce que il est temps aussi que les théâtres puissent rouvrir, et dans beaucoup de théâtres, les protocoles sanitaires font que ce n'est pas compatible. Chez nous, j'essaye de trouver, puisque la CGT a dit qu'ils allaient continuer le mouvement, j'essaye aujourd'hui de discuter avec eux pour essayer de trouver des solutions qui nous permettent de rouvrir. Donc j'ai proposé que l'occupation soit plus une occupation de jour pour qu'on évite la coprésence en fait des groupes de public et des groupes d'occupants au même moment dans le grand foyer du théâtre, ce qui n'est pas techniquement possible.
Bon, vous êtes, les discussions continuent, si je comprends bien.
Les discussions continuent.
Et vont continuer tout ce week-end.
Je suppose.
Ouais. L'année blanche, elle a été prolongée de 4 mois donc pour les intermittents. Le gouvernement les assure aussi qu'il y a des filets de sécurité si jamais 2022 repartait pas comme tout le monde le souhaite. Ça vous paraît suffisant, Stéphane Braunschweig ?
Les mesures, c'est toujours insuffisant. Mais il est clair que le gouvernement a fait un pas très très important en prolongeant de 4 mois l'année blanche et surtout avec ces filets de sécurité qui existent derrière. Vous parliez d'embouteillage. Le fait de devoir, dans une même saison, équilibrer entre les spectacles reportés et les spectacles nouveaux, fait qu'il y a, de toute façon, il va y avoir un nombre de spectacles qui ne vont pas pouvoir se créer comme ils étaient prévus l'année prochaine. C'est-à-dire que même si on a une reprise d'activité à plein, avec des jauges à 100%, qu'on joue nos 300 représentations dans l'année, nos 15 spectacles, il y a des spectacles que nous, on a déjà dû reporter à la saison 22-23. Donc c'est du manque d'emploi pour les intermittents qui sont dans ces compagnies. Donc c'est très très important que ces mesures permettent à ces intermittents de survivre jusqu'à ce qu'on ait à peu près amorti le choc de cette crise qui ne peut pas être avant la saison 22-23.
Jérôme Tréorel, vous, votre jugement après ces mois de fermeture, est-ce que vous pensez que la culture, elle a été suffisamment soutenue? Et est-ce qu'aujourd'hui, là, on parlait des intermittents, vous vous sentez suffisamment accompagné pour rebondir? J'entends que les cicatrices, par exemple au théâtre, finalement, elles seront effacées que dans 2 ans.
Alors nous, on est sur des saisons et des événements uniques, hein, qui est notre principale activité. Nous, pour donner un exemple, l'année dernière, l'année sans activité pour les Vieilles Charrues, ça nous a coûté 1,8 million d'euros. Grâce à des aides qui ont été nombreuses, hein, qui sont arrivées principalement à partir de la rentrée de septembre. Il y a eu le chômage partiel, il y a eu des aides via le CNM, les DRAC, les partenaires, le fonds de solidarité qui a aidé. Nous, il nous manque encore aujourd'hui 600 000 euros. Il y a une des aides, un fonds d'urgence qui est en cours. Je suis pas sûr qu'il soit complètement adapté parce qu'un festival ne démarre pas dans sa construction, dans sa conception en avril pour juillet, mais en septembre-octobre. Donc là, il y a encore des choses à calibrer. Après, pour le soutien des intermittents, c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer cette édition pour, même si c'est une moindre mesure, mais au moins créer quelques dates pour une centaine d'intermittents et également pour nos prestataires spécifiques. Je pense que sans intermittents, il n'y a pas de festival. Donc c'est indispensable que ces métiers très spécifiques et qualifiés soient soutenus et protégés afin que bien on maintienne cette diversité culturelle, cette exception culturelle française en soutenant ce corps de métier et les organisateurs d'événements qui font cette diversité.
Allez, une dernière question à vous, puisque je connais la ménagerie de verre, ça sera le 19 mai avec Isabelle Huppert à l'Odéon. Mais alors aux Vieilles Charrues, on ne sait toujours pas.
La programmation de
oui,
cette année?
Oui, absolument.
Non, alors je vous le dis,
vous avez quelques secondes,
vendredi
allez-y.
Prochain. Vendredi prochain, on annonce toute la programmation.
Très bien, vendredi prochain, on attend de savoir. Les Vieilles Charrues, c'est programmé donc du 8 au 18 juillet à Carré. Et donc, au Théâtre de l'Odéon, la ménagerie de verre avec Isabelle Huppert. Merci à vous, Jérôme Tréorel, depuis Rennes. Et merci à vous, Stéphane Braunschweig, d'avoir été dans le studio d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
Le rendez-vous avec Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Ce matin, une question de Monique. Alors, la semaine prochaine, les syndicats attaquent le décret sur l'assurance chômage devant le Conseil d'État. Et en attendant, Sandrine, Monique vous a écrit, elle vous demande s'il y a un moyen simple de connaître le montant de l'allocation qu'un chômeur peut espérer toucher avec les nouvelles règles.
Alors non, Monique, on voudrait tous l'assurance chômage pour les nuls, mais le mode d'emploi n'a pas été livré avec le dernier décret. C'est la faute du nouveau salaire journalier de référence qui sert à définir le montant de l'allocation chômage. Il chamboule des règles déjà assez compliquées, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du 1er juillet, pour le calculer, on additionnera les jours travaillés, mais aussi les jours non travaillés. Le ministère du Travail a introduit un plancher pour que l'allocation ne baisse pas trop, mais mathématiquement, plus un demandeur d'emploi connaîtra des périodes de chômage, plus son indemnité sera faible. Une étude de l'UNEDIC révélée par les Échos montre que ça a des conséquences pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, par exemple. Un jeune diplômé qui décroche son premier CDD de 6 mois aura droit à une allocation sur 6 mois. Mais si ce même jeune a accepté une seule journée de babysitting déclarée au cours des 24 derniers mois, c'est la période qui est prise en compte pour ouvrir des droits, son allocation sera inférieure de 30% parce qu'on va tout calculer, c'est-à-dire les mois de chômage entre le babysitting et le CDD de 6 mois. Ce jeune-là touchera une plus faible allocation plus longtemps, mais s'il reprend un job assez vite, ce qu'on lui souhaite, il aura été pénalisé par rapport à un autre étudiant qui n'aurait pas eu besoin de travailler.
Mais Sandrine, ce sont peut-être des cas très spécifiques et plutôt isolés.
Le problème, c'est que cette réforme ressemble à une boîte de Pandore. Il y a d'autres effets pervers, notamment sur les chômeurs qui cumulent une allocation et un salaire. Mieux vaut connaître 10 mois de chômage et enchaîner 2 CDD de 5 mois que d'avoir 10 mois de chômage entre 2 CDD de 5 mois. Pour la même durée, pour le même salaire, Monique, l'allocation sera différente. C'est ce que montre l'UNEDIC. Et c'est encore pire si un contrat de travail de 30 jours est à cheval sur 2 mois plutôt que s'il commence le premier du mois. Là, les écarts peuvent aller de 1 à 50. La réforme aura aussi un impact sur les personnes qui auront connu un congé maternité ou un chômage partiel. Pour neutraliser ce bug, le gouvernement vient de proposer de calculer le salaire fictif que le demandeur d'emploi aurait dû percevoir s'il n'avait pas arrêté. Mais l'UNEDIC juge que ce serait contraire au Code du travail. La rue de Grenelle n'a pas souhaité commenter. Les syndicats, eux, vont saisir le Conseil d'État mardi ou mercredi prochain. Les magistrats auront un mois pour éventuellement suspendre le décret en urgence, 4 mois pour l'annuler sur le fond. Ce ne sera pas du luxe vu l'hyper-complexité de ces nouvelles règles.
Heureusement qu'on vous a, Sandrine Foulon. Ma vie au boulot. Vous pouvez écrire à Sandrine, lui poser vos questions. Ça se passe sur le site de l'émission, franceinter.fr, ou par mail. On n'arrête pas l'écho, pas d'accent, tout attaché avec 2 N. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Merci à Juliette Gou, la réalisatrice, à Valentin Pérez, l'attaché de production, et à Louis Audebert, qui nous a accompagnés à la technique. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure.